Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, comme toujours, des histoires, des contes, des légendes, des contes étiologiques parfois. Ah, vous savez pas ce que ça veut dire. Étiologie, ça veut dire un conte qui explique l'origine de quelque chose. Et c'est le choix que j'ai fait aujourd'hui parce que je me suis retrouvé entre les mains avec un livre. Des éditions libres La Pique qui chante. Vous connaissez La Pique, sûrement. En général, La Pique tombe à pic. Lorsque vous avez un mur en pierre sèche qui se casse la gueule derrière chez vous, non, ils sont pas, ils construisent des moulins, ils refont des puits, ils rebâtissent des murs de pierre, mais tout ça pour juste le plaisir. Ce n'est pas une entreprise, c'est une association, l'association pour la promotion de l'identité des Causses du Quercy. Et ils font aussi des ateliers d'écriture. Et voici, je crois que c'est le troisième peut-être, hein, alors sans doute à cette antenne des gens en ont parlé, le troisième petit livret qui rassemble tous ces contes, et là en l'occurrence donc des contes étiologiques autour de la cuisine et notamment de la pâtisserie qui s'intitule « Légendes et contes pâtissiers et autres gâteries d'Écosse du Quercy ». On y trouve l'origine des crobelés, des merveilles, la première fois, la recette du pastis, le vrai et le faux mias, la sainte croustade, et le tout accompagné de recettes, hein, ingrédients, 6 œufs, 6 cuillerées de farine, 6 cuillerées de sucre. Commencez par séparer les... Non, mais je ne suis pas dans une émission culinaire. Je vais vous raconter les histoires que tous ces gens rassemblés dans cet atelier animé par Michel Vaissier ont, toutes les histoires qu'ils ont imaginées et qui expliquent tout un tas de choses. Et je les ai accompagnés cette fois-ci par de la musique qui nous vient de Dubartas, un groupe du Languedoc qui chante en occitan, et les musiques et les histoires se répondent pour qui sait écouter. Allez, on part en voyage, en plus c'est bientôt l'heure du goûter, ça tombe bien. La croquante. Petite, j'allais chez ma grand-mère, dans un joli village du Quercy. J'y mangeais au goûter un gâteau très dur, croquant, un peu sec, parsemé d'amandes. J'enlevais celle du dessus que je croquais. Ça formait des petits trous dans lesquels je rajoutais de la confiture de mirabelle pour donner du moelleux. Ce gâteau s'appelait la croquante. Devenue mère, j'ai eu envie de le faire découvrir à mes enfants. J'ai alors demandé à ma grand-mère de me transmettre sa recette. Avant de te la donner, laisse-moi te conter son histoire. Jean du Rouergue était fils de paysan. Sa famille avait des terres, un bois de noyer et un petit poulailler. Pierrette du Quercy était la fille de l'épicier du bourg. La boutique de ses parents sentait bon les fruits, les légumes et les épices. Jean et Pierrette s'étaient connus à une fête agricole en Rouergue. Ils n'avaient pas 15 ans. Avec beaucoup de sérieux, ils avaient gravé un cœur sur le tronc d'un chêne majestueux. Ils étaient enthousiastes et l'évidence de leur amour leur avait fait oublier la réalité. Ils s'étaient promis l'un à l'autre pour l'éternité, malgré l'opposition de leurs parents. Jean et Pierrette se retrouvaient en secret sous le pont de la Bonnette qui relie le Rouergue et le Quercy. Chacun apportait ce qu'il avait pu grappiller dans le placard de sa famille. Un œuf, de la farine, une gousse de vanille, un peu de beurre. Ils avaient construit un petit four en entassant des pierres et cuisinaient ensemble. C'était leur manière de s'unir en unissant leur présent. Trop jeunes pour se pétrir de caresses, ils pétrissaient la pâte ensemble. Trop jeunes pour se croquer de baisers, ils croquaient ensemble noix et noisettes. Trop jeunes pour inonder leur corps d'effluves amoureuses, ils répandaient ensemble le jus d'un citron ou de fleurs d'oranger. Parfois, une goutte de liqueur qui imprégnait leurs mains. La mère de Pierrette découvrit leur secret. Avant qu'il ne soit trop tard, on se résigna à les marier. Le jour de leurs noces, Jean et Pierrette décidèrent de confectionner eux-mêmes leurs gâteaux, fruits délicieux de leurs rencontres interdites. Ils le nommèrent la croquante, en hommage à Pierrette et à toutes les filles que l'amour rend belles à croquer. Cette recette est celle d'un gâteau d'amour, mélange des saveurs du Rouergue et du Quercy.
Di nostre petite virage, ai man plan la libertà, e a n'importo cunage, un si amuse splaverta. Dal picciu al mametto, tutto il mondo in mera seu, a che giù si la placeto, di gusta pare de seu. Caro muri, vin giù faghe tra festo, lume si nage, raggiù ne sentesto, tutto village si mette tenentie. Pas que sommes di nostre bel quartier, pur temblo mi, lo ritmo s'accelero, tres catre fios cumem sura lanzar, aven florit las plazos, las carrieros, eru casteris de su vieiza, di los ustas, las vieios cusinieros, am fac manchar a pego en graniero, tan papulit al muri al castello.
Il était une fois, dans une ferme du Quercy, au lieu dit le pêche de Fourque, un jeune garçon paisible et travailleur du nom de Pierril. À l'exemple de son père, il s'appliquait à bien faire tous les travaux communs aux paysans sur ces rues de terre du Causse. La tâche dont il s'acquittait avec le plus grand plaisir était de faire le pain dans le fournil de la ferme. Il aimait les odeurs de boulange, l'arôme et le chant du pain chaud juste sorti du four. La farine, la pâte, le bois, le feu, toute cette alchimie de la fabrication du pain était un régal pour Pierril. Un jour d'été, une guerre fut déclarée, loin des terres d'Écosse. Ce fut la première que l'on appela mondiale.
Adi siats ma mai re me be las paspus, che men bo di satte u bele u di lust. Adi siats ma mai re me be las paspus, che men bo di satte u bele u di lust. Macarelle di un sentir alzal son, de ma cin bele u seremo. Macarelle di un sentir alzal son, de ma cin bele u seremo.
Toute la jeunesse paysanne du pays était appelée à servir sous un uniforme bleu horizon. Avant son départ, Pierril prépara une dernière fournée pour l'offrir à tous ses voisins et amis. Il termina sa distribution par la gariote isolée d'une vieille que tous disaient un peu sorcière. Pierril la connaissait depuis sa plus tendre enfance. Il l'avait toujours respectée et souvent aidée. « Mon enfant, dit-elle, tu vas connaître de bien terribles épreuves. À mon tour, je vais t'aider. Prends trois pierres de couvrement sur le mur de ton père, trois rastels bien lourds, et enfourne-les dans ton four encore chaud. Demain, à l'aube, avant ton départ, tu y retrouveras tes trois rastels changés en biscuits. Glisse-les dans ta besace de soldat, et si un péril te menace, mange un rastel. Croque, crinque, crunch, tu seras protégé par la magie des pierres du Quercy. Pierril remercia la vieille. Et de retour à la ferme, il découvrit le mur de son père de trois rastels qu'il plaça dans le four encore chaud. Quant au matin, il l'ouvrit, il y trouva trois biscuits, de même forme que les pierres, mais beaucoup plus petits, légers et encore tièdes. Il les rangea dans sa besace et partit vers son destin. Cette guerre s'éternisa dans l'horreur. Une nuit, la tranchée où se tenaient Pierril et ses compagnons fut canonnée à l'aveugle par quelques batteries ennemies ou alliées. Pierril se retrouva enterré vivant sous des monceaux de bois, de boue et de corps. C'est alors que contre lui, il sentit une tiédeur sourdre de sa besace au travers de sa vareuse empesée de crasse et de boue glacée. Il en dégagea un des trois rastels qu'il porta à sa bouche. Croque, crinque, crunch. Il avait encore en bouche la saveur du biscuit quand il entendit des bruits lointains. Il comprit qu'on fouillait la terre près de lui. On le dégagea. Il était le seul survivant de ce bombardement. Quelques temps plus tard, Pierril était posté en sentinelle quand il vit un brouillard épais se propager vers sa position. Les gaz, une arme aussi aveugle qu'horrible employée indistinctement par les deux camps. La mort brumeuse rampait vers lui quand il sentit une douce chaleur rayonner de son barda. Il saisit dans son sac un rastel, miraculeusement tout tiède. Croque, crinque, crunch. Pierril avait encore la bouche pleine des miettes savoureuses du biscuit que, venu d'on ne sait où en ces terres du Nord, une bourrasque de vent d'automne souffla curieusement sur le brouillard fatal et l'emporta dans les nuées. Pierril était sauf. Un jour d'automne, la guerre prit fin. Pierril retourna dans ses chères cosses du Quercy. La première chose qu'il fit en arrivant à la ferme fut de replacer trois beaux rastels de pierre sur le mur de son père. Il changea aussi les activités de son ancien mode de vie car il se consacra essentiellement à boulanger dans le fournil familial. Il y fabriquait en autre, un biscuit délicieux qu'il nomma rastel, comme ces pierres de couvrement qui assurent la solidité des murs en pierre sèche et les protègent des infiltrations. Mais au fait, me direz-vous, qu'a fait Pierril de son troisième rastel? Et il l'a gardé pour la fin. Et toi qui m'écoutes, croque, crinque, crunch, et tu seras protégé par la magie des pierres du Quercy. Et cric, et crac, mon coude est s'accabate.
La gloria della patria.
compter pour des prunes. Un dernier sac de farine s'éloignait à dos d'homme le long d'une ruelle de Caylus. La poissonnière, le charcutier et l'épicière regardaient avec envie le mitron rejoindre son fournil. Où étaient passés les seaux dégoulinants de sardines, les lourds quartiers de porc noircis de mouches, les sacs de pommes de terre dont les pousses crevaient la toile? Les étals du marché ne proposaient plus rien qui puisse être mangé. « Ô boulanger, dont les soutes sont pleines, que proposes-tu pour remplir nos bodaines ?» demandèrent en chœur nos épais villageois amassés devant la vitrine. « Mes compagnons d'infortune, sachez que mon four n'a rien de magique, » répondit l'homme de métier. « Je peux vous proposer des tartines, de pain ou des pains en croûte. Avec vous, j'ai fini de croquer nos élevages, d'engloutir nos cultures, et je crains que sans les apports d'autres villages, nous dussions nous serrer la ceinture. » Un claquement de sabots se fit entendre, puis une charrette apparut au fond de la ruelle. C'était Jeannot, le cultivateur de Malleterre. Les enfants se mirent à courir à sa rencontre. « Vous le voyez, ma charretée n'est faite que de prunes. » Mais il s'agit de la fameuse prune de Saint-Antonin. Sa peau est sombre et violacée comme une nuit de l'enfer. Sa chair jaune et pimpante comme un soleil de printemps. Elle vous régalera. À ces mots, les enfants déguerpirent. Car ils connaissaient déjà la prune en question. Elle est acide à desceller les barreaux de prison. La maîtresse d'école monta sur un puits pour prendre la parole. « Oyez, braves gens, depuis 20 années, nos vies devenant plus faciles, nous nous sommes dispersés comme des papillons, et les rudiments de nos ancêtres viennent à manquer. En ce jour important, je vous propose d'essayer une recette des plus simples à l'image de citoyens se rassemblant sur la place du village. Regroupons les prunes sur les galettes de pâte à pain, galettes que nous préparera notre boulanger bien-aimé. Nous attendrons la fin de sa fournée pour cuire nos plats. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Et le pain aux prunes fut mangé par tous, même par les enfants, faute de mieux. En Occitan, ce plat fut appelé louprunate et il demeure un emblème de simplicité et de cohésion.
Bacchi vengut gualdo lu gran, tros de festo, tros de sagan, barraque de la tribalo, de sunu ubaldo moiano, cum aquel centra popas mai, aquelo tribalo, acun pulit cartier, y aquele gitanos, e che le barracchette han paire sandalos, han paire suriet, van faire la balzò, a chi giù il pumbiel. Se stu giù a chi per vita, per balia ne van per cantà, calla vino es malaisido,
centro. mano abre la puerta al pueblo unido vencido. Esa lucha nunca se pierde, mañana te recordará.
Hermano, abre la puerta al pueblo unido vencido.
Voilà, compte à rebours. C'est fini pour aujourd'hui. Avec les musiques, les chansons de Dubartas et les contes de l'atelier d'écriture de La Pique. Qui sont-ils, ces écrivains au four à bois et au moulin à ménage? Béatrice Amiel, Maurice Beau, Christine Bernard, Maryse Demelin, Carole Echeverry, Jackie Faganello, Nicolas Guiraudet, Evelyne Amon, André Lebert, Nicole Millet, Justin Miquel, Morgane Toer et Michel Vaissier. Merci à eux. Et puis, il y en aura peut-être d'autres. Et sinon, achetez-le et vous aurez aussi les recettes et vous vous régalerez à la fois à lire et à manger. C'était Compte à rebours. Ciao. À la semaine prochaine.